L'art de la délégation. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage qui va vous montrer comment cette fameuse délégation, eh bien, peut vous libérer du temps. Ça, je pense que vous le saviez, mais également vous libérer votre esprit si elle est correctement exécutée. Nous allons comprendre ensemble, eh bien, quelle est la valeur d'une bonne délégation. Ensuite, nous parlerons de comment identifier les tâches que vous pouvez déléguer. Comment trouver les bonnes personnes et finalement, nous verrons quelles sont les clés d'une délégation efficace. Eh bien, je vous raconte tout ça dans un instant. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. Entre-temps est le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps, et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est Jean-Claude Blémont derrière le micro, et en guise d'introduction, je vais vous conter l'histoire d'un entrepreneur à succès, qui pour lui, la délégation était réellement très importante, ce qui nous permettra de voir un peu quel était pour lui et sa société, eh bien l'impact de cette délégation, tant sur l'évolution de sa société, mais également sur la productivité. Nous verrons par la suite quatre parties, dont la première partie va nous aider à comprendre réellement la valeur de cette délégation. Dans la deuxième partie, je vous aiderai à identifier les tâches que vous pouvez déléguer déjà aujourd'hui. Dans la partie 3, nous verrons quelles sont les bonnes pratiques pour trouver eh bien, les bonnes personnes à qui déléguer. Et avant de conclure, nous parlerons dans la partie 4 des clés d'une belle délégation efficace, celle qui va réellement vous libérer à la fois du temps, mais également votre esprit. Avant de nous lancer dans cette fabuleuse histoire, je voulais vous rappeler que si vous désirez faire un commentaire ou avoir plus d'informations sur cet épisode, vous pouvez continuer, eh bien, comme je vous le dis, l'aventure sur le site www.oruposa.com et vous allez sur l'onglet podcast. Vous y verrez là l'information sur l'épisode actuel, mais également vous pourrez retrouver toutes vos plateformes préférées ainsi qu'un accès au blog qui est lié à ce podcast. Vous aurez également l'occasion de me laisser un message, si vous préférez, faire vous aussi du podcast dans vos commentaires. Voilà, à tout de suite. Je vais donc vous raconter une partie de l'histoire d'un entrepreneur, je pense, à succès, qui attribue une grande partie de sa réussite à, justement, sa capacité à déléguer et à déléguer efficacement. Alors, vous connaissez peut-être Richard Branson, le célèbre entrepreneur et aussi fondateur du groupe Virgin. Et dans la presse, il est souvent cité, justement, pour sa capacité à déléguer. Richard Branson est effectivement connu pour la fameuse marque Virgin, mais il faut savoir que Virgin, c'est pas seulement une compagnie aérienne, c'est également tout le domaine du divertissement, et les disques notamment, mais également des activités dans l'espace. Donc voilà, c'est quand même très très large. Et il a souvent partagé comment en fait la délégation a joué un rôle crucial dans son succès. Et dans plusieurs interviews, il l'a mentionné à des moments différents de sa carrière. En fait, Branson a eu, je dirais presque un flash, il a vite compris qu'il ne pouvait pas tout faire tout seul. Et donc, lorsqu'il a eu sa vision pour Virgin, il a tout de suite compris qu'il avait besoin d'une équipe de personnes, et je dirais talentueuses, et surtout passionnées par ce qu'il voulait faire, et qui étaient capables, en fait, de prendre des initiatives et de porter les différentes activités, les différentes branches de son entreprise vers le succès. Il faut savoir quand même, quand on parle de l'aviation, des disques et puis de l'espace, on est quand même dans des domaines qui sont relativement différents. Et donc là, il avait besoin réellement de personnes pour l'aider. Dans une de ses interviews, Branson raconte qu'au fur et à mesure que le groupe Virgin se développait, il a compris qu'il était essentiel pour lui de réellement trouver, comme il l'appelle, lui, des leaders, pas uniquement des managers, mais des leaders, des gens avec aussi une vision, qui pouvaient gérer en fait les opérations au quotidien, et pour cela, c'était des personnes en qui il devait avoir confiance. En fait, il mentionne à plusieurs reprises que cette action lui a permis non seulement de se concentrer sur la croissance globale de Virgin, donc de son groupe, mais aussi de poursuivre de nouveaux projets, et notamment il a lancé tous les projets en relation avec l'espace, et en fait qui nourrissait une passion et que cette passion le guidait réellement dans ses activités. Donc il a souvent dit que son rôle pour lui était de fixer les grandes lignes, d'inspirer et de déléguer le reste. Ce qui est remarquable, c'est que cette capacité que Branson avait à déléguer, elle a non seulement accéléré bien sûr la croissance de son groupe, mais elle a également eu, comme il le dit si bien, un impact significatif sur sa propre qualité de vie. Il a, grâce à la délégation, il a pu maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et ça, c'est le rêve de quand même beaucoup d'entrepreneurs. Et ce qui lui a permis, par exemple, de s'engager dans des activités philanthropiques, on le sait, et même de poursuivre des passions personnelles. Et ça, c'est quand même très riche comme expérience. Et notamment, il a fait plusieurs tentatives de record du monde, comme vous le savez. Branson attribue en fait une grande partie de ce qu'il appelle son bonheur et sa réussite à finalement sa décision de pouvoir s'entourer de personnes qui sont compétentes et de leur confier des responsabilités. Et ça, c'est quand même une clé de la délégation, c'est de confier une partie de nos responsabilités sans les abandonner, mais de les confier à quelqu'un d'autre. Voilà une histoire courte sur Richard Branson. On pourrait parler des heures de cet homme-là. Mais ce que je voulais réellement retenir et vous proposer de cette courte histoire, c'est que la délégation, en fait, n'est pas simplement une stratégie de gestion, mais c'est réellement, et ça c'est mon message, une composante essentielle, je dirais du leadership, mais à la fois le leadership de ses activités personnelles et professionnelles. Et en fait, qui permet non seulement à l'entreprise de prospérer, comme on l'a vu, mais également qui encourage surtout les entrepreneurs à trouver les personnes meilleures qu'eux. Comment trouver une personne meilleure que moi? Parce qu'elle va me permettre, à un certain moment, de pouvoir réaliser des choses que moi, je ne suis pas capable de réaliser. Et finalement, de leur laisser également de la place pour innover et diriger nos activités. Alors c'est quelque chose de très compliqué pour un entrepreneur, d'un certain moment, lâcher un peu son bébé et de le mettre dans les bras de quelqu'un d'autre, mais c'est une approche en fait qui crée plus qu'un cercle vertueux, c'est réellement là où la confiance et la responsabilisation vont réellement alimenter la croissance et l'innovation de qui? De notre bébé. Donc il ne va pas rester toute sa vie un bébé, notre bébé chéri qui est notre entreprise. Il va grandir et pour ça, il a besoin que nous soyons aidés par des personnes qui peuvent prendre une partie de nos responsabilités et en qui nous avons totalement confiance. Comprendre la valeur de la délégation, c'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Il devient tout doucement clair que la délégation est en fait une compétence essentielle pour tout entrepreneur, voire même gestionnaire d'équipe, qui aspire à ce que j'appellerais un niveau supérieur d'efficacité, mais surtout d'épanouissement, épanouissement professionnel et personnel. Pourquoi ? Parce que la délégation va permettre, à un certain moment, de pouvoir faire d'autres choses. Et la délégation ne se concentre pas seulement sur le transfert de tâches, c'est réellement une stratégie, je dirais, cruciale, pour maximiser, voire optimiser, notre potentiel d'entrepreneur et notre potentiel de croissance au niveau de notre entreprise. Et ça, c'est bien entendu valable professionnellement, mais n'oubliez jamais que c'est aussi valable personnellement. Parce que le temps que vous retrouvez, c'est vous qui allez décider comment vous allez l'utiliser. Donc on va voir un peu quels sont maintenant les avantages, je dirais les avantages clés de la délégation. Ces avantages se répartissent à la fois pour la personne qui va déléguer, donc par exemple vous, ou la personne qui va recevoir l'activité de délégation. Alors la toute première qui est d'abord pour la personne qui délègue, c'est une libération de temps. En fait, quand on délègue des tâches qui ne nécessitent pas vraiment votre expertise unique ou votre savoir-faire particulier dans votre entreprise ou dans votre activité, eh bien, vous libérez un temps précieux. Et ce temps que vous retrouvez, vous pouvez alors le consacrer à des activités qui ont peut-être pour vous beaucoup plus de valeur ajoutée, si pas pour vous, pour vos clients, ou vous pouvez travailler directement sur des objectifs beaucoup plus stratégiques, voire même votre vision à long terme, parce que vous avez maintenant du temps. Le deuxième point très intéressant, c'est en fait votre amélioration, l'amélioration de l'efficacité. Pourquoi ? Parce que la délégation, elle permet réellement de fonctionner plus efficacement. Vous vous souvenez, vous allez avoir des personnes qui sont réellement, je dirais, des experts dans le domaine à qui vous allez déléguer. Donc, si vous attribuez des tâches aux membres de l'équipe dont les compétences correspondent réellement au mieux à chaque tâche, eh bien, vous augmentez deux choses. Premièrement, l'efficience, beaucoup de chances que ça va aller plus vite que si vous le fassiez vous-même, mais également l'efficacité. Donc, on a une utilisation des ressources qui est optimum, et de là, on doit normalement améliorer les résultats globaux. Et aussi, comme pour Richard Branson, vous pouvez également améliorer eh bien, votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est toujours la même vie, c'est la vôtre. Et donc finalement, cet équilibre, je ne vais pas dire qu'il est crucial, mais il est très important pour maintenir quoi ? Votre bien-être et surtout votre motivation à long terme, pour éviter l'épuisement à tout vouloir faire tout seul. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que des bénéfices pour la personne qui délègue, mais également les personnes qui reçoivent les nouvelles responsabilités ou les nouvelles tâches. Et en fait, ça permet aux membres de l'équipe ou aux personnes à qui vous déléguez de développer ses propres compétences, parce qu'elle va enrichir finalement ce que la personne dans l'équipe fait. En effet, souvent vécu lors de la délégation, et ça c'est quelque chose de personnel que j'ai pu voir, c'est qu'à un certain moment, une personne voit une activité avec un autre regard et vient avec des propositions pour faire un changement ou éventuellement une innovation. Pas forcément quelque chose que moi-même j'aurais pu voir puisque je faisais déjà l'activité depuis un bout de temps. Ce qui se passe également, et ça j'ai pu le vivre aussi avec mes propres équipes quand je travaillais dans ces fameux groupes internationaux, c'est un phénomène de renforcement de la confiance. Effectivement, quand vous déléguez une activité, quand je donnais une activité à un de mes membres et qu'il savait que normalement c'est moi qui faisais cette activité auparavant, eh bien il y avait un sentiment qui naissait, puis qui se renforçait de confiance. Ah, le patron ou le chef me fait confiance, et ça avait un autre effet qui était absolument incroyable, c'était que cela permettait à certains, pas tous, mais à certains, de prendre des initiatives pour encore améliorer l'activité. Et finalement, ce que cela m'a permis, surtout avec certaines personnes en particulier, eh bien, c'est de préparer la relève, parce que ces personnes pouvaient pratiquement faire le travail que je faisais. Et donc, si moi, j'étais amené à prendre d'autres responsabilités, eh bien, petit à petit, il pouvait se sentir prêt à pouvoir prendre mon poste. Et ça s'est déroulé plusieurs fois dans ma carrière. Et ça, j'en suis très heureux. S'il y avait bien une chose que j'aimerais que nous retenions de cette délégation, c'est qu'elle est bien plus qu'une simple redistribution de tâches. C'est pas simplement de mettre la patate chaude sur le bureau d'un collaborateur et dire « tire ton plan » comme on dit en Belgique, c'est-à-dire « débrouille-toi ». C'est réellement une approche, et rappelez-vous l'histoire de Richard Branson, c'est qu'elle est stratégique, elle peut jouer réellement un rôle crucial dans le développement de notre entreprise et de lui donner un nouveau dynamisme, voire d'être beaucoup plus résiliente, puisque s'il m'arrive quelque chose, je sais que j'ai les bonnes personnes qui peuvent continuer à faire fonctionner la société. En fait, en maîtrisant l'art de la délégation, comme je l'ai appelé, parce qu'en fait, on ne naît pas personne qui peut déléguer, on peut également l'apprendre. Et effectivement, je l'ai vu quand j'ai eu l'occasion de faire une masterclass pour une société sur la délégation. Eh bien, beaucoup de personnes étaient étonnées de ce qu'il fallait finalement pouvoir maîtriser pour avoir une délégation très efficace. Et elles ont été complètement convaincues par cette approche, et c'était assez marrant. J'aurai peut-être l'occasion de vous en raconter par la suite, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai également inclus dans mes formations. Alors, vous contribuez également, en déléguant, à ce que je vous ai dit, un environnement de travail, eh bien, où la confiance est là. Et vous savez, la confiance, ça met les personnes en sécurité, et lorsqu'elles se sentent en sécurité, c'est l'espace idéal pour l'innovation, et surtout, l'épanouissement personnel. Ça, si on pouvait épanouir notre personnel dans le cadre de leurs activités professionnelles tous les jours, waouh, ce serait réellement quelque chose que moi j'appelle le plein essor. Dans la prochaine partie, on va parler de stratégies, je veux dire de manières plutôt très concrètes pour identifier les tâches que vous pouvez déléguer. Alors souvent, il y a, lorsque j'en parle à certaines personnes que j'accompagne, il y a des réticences. Ça peut me coûter pour pouvoir déléguer certaines activités. Ou bien, tu sais, ça me prend plus de temps, Jean-Claude, si je dois expliquer à quelqu'un. Eh bien, on va un peu démonter ces artifices et on va voir comment on peut appliquer efficacement ces quelques principes, ben, simplement dans votre quotidien professionnel, voire même personnel. On y va. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment identifier finalement les tâches que vous pouvez déléguer. Je vais vous proposer une méthode simple, directe. Vous verrez si vous pouvez l'utiliser pour vous-même. Je pense que avec les personnes que j'ai accompagnées, elle a fait son petit effet. Mais avant cela, c'était souvent des questions que je recevais des personnes avec qui je travaillais. C'est-à-dire, oui, mais enfin, quelles sont réellement les tâches qui sont des bonnes de bons candidats pour la délégation. Et je vais vous en donner une petite liste, une dizaine, simplement pour illustrer et vous montrer que c'est possible, dans vos activités quotidiennes, de déjà avoir une certaine quantité d'activités que vous pouvez déléguer. Bien, allons-y. Alors, par exemple, la gestion de votre courrier. Bien, simplement le trier, le lire, répondre à des questions qui sont un peu trivial de vos clients ou de vos fournisseurs, eh bien ça peut être délégué à une personne qui le fait pour vous. La comptabilité et la gestion financière. Ben, les tâches de comptabilité de base, par exemple, comme la facturation ou les paiements. Ou alors même tenir vos livres comptables. Alors, quelque chose que vous êtes tous confrontés certainement si vous faites de la publicité, c'est la gestion des réseaux sociaux. Bon, moi je sais, je publie pratiquement quotidiennement. Bien, c'est peut-être quelque chose que je vais à un certain moment déléguer, mais également l'interaction avec les personnes qui me suivent. Alors pour l'instant, j'aime bien faire cela moi-même, parce que j'ai encore suffisamment de temps dans mon agenda pour pouvoir le faire, mais sinon, à un certain moment, ça peut être quelque chose qui peut être délégué. Et même si on a assez de temps, il y a certaines personnes qui ne se sentent pas très à l'aise avec cela, et donc on peut déléguer ce type d'activité. Le service client, par exemple, à répondre aux demandes des clients, gérer les retours, les réclamations, ça dépend bien entendu dans quel business on est. Tout ce qui est gestion administrative, il y a parfois toute une série de tâches administratives qu'on doit faire, de prise de rendez-vous, préparation de documents, établir des dossiers pour pouvoir faire une offre, par exemple. Toute une série de recherches qui sont parfois nécessaires aussi, par exemple lorsqu'on doit développer un nouveau produit, ou bien rechercher si ce produit existe, ce qui n'a pas été déposé. C'est parfois des activités qui demandent pas mal de temps et qui pourraient être faites par une autre personne. Alors, je ne sais pas si vous avez un blog dans lequel vous créer du contenu, moi j'en ai deux, j'en ai un qui est lié principalement à ce podcast, et puis j'en ai un autre qui est plus général sur la transformation, mais c'est du temps, ça prend du temps d'écrire les articles, et donc à un certain moment, si vous avez besoin de récupérer ce temps, c'est aussi quelque chose qui peut être délégué. la mise à jour, par exemple, d'un site web. Hein, il y a toute une série de maintenance. J'ai deux sites, par exemple, qui demandent pas mal de maintenance, des mises à jour qui doivent être faites. Heureusement, il y a des activités qui peuvent être automatisées. Mais si on ne sait pas trop comment les automatiser, c'est peut-être aussi un candidat à la délégation. Le recrutement, je ne vous conseillerais pas de déléguer complètement votre recrutement, mais il y a toute une série d'éléments que vous pouvez effectivement demander à une autre personne de faire, qui est le processus de recrutement depuis finalement la publication d'une offre d'emploi, le filtrage des candidatures, et peut-être voire même les premiers entretiens si vous avez énormément de candidats qui désirent travailler avec vous, ce que je vous souhaite d'ailleurs. Et finalement, ben, on peut aussi avoir tout ce qui est logistique et gestion des stocks. Hein, si vous avez des activités où vous utilisez des produits pour pouvoir vendre, bien, les commandes, les réapprovisionnements, l'état des stocks, et voir aussi à gérer les expéditions. Ce sont toute une série d'activités logistiques qui ne nécessitent pas forcément votre savoir-faire. Bien, poursuivons maintenant avec cette cette stratégie, ou du moins ce processus pour identifier les tâches à déléguer. Alors la première étape, comme je l'avais mentionné dans ma masterclass sur la délégation, c'est peut-être un mot barbare, mais c'est l'audit des tâches. C'est comme ça que je l'ai appelé. En fait, c'est très simple, vous commencez simplement par faire un inventaire de toutes les tâches, toutes les activités que vous effectuez sur une semaine typique. Pourquoi souvent, dans l'entrepreneuriat, la semaine ou alors le mois est un cycle presque parfait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent toutes les semaines ou tous les mois. Bon, un mois c'est un peu long, donc faisons ça d'abord sur une semaine. Et vous classez toutes ces tâches en fonction de leur importance et surtout vous indiquez un niveau d'expertise qui est requis pour cette tâche en particulier. Et les tâches qui ne nécessitent pas réellement vos compétences qui sont uniques, ben, en fait, vont devenir des candidates idéales à la délégation. Ensuite, vous allez analyser la valeur de chacune de ces tâches. Et en fonction, en fait, de l'impact que cette tâche a sur vos objectifs à long terme, et vous pouvez vous poser la question, est-ce que cette tâche contribue directement à ma vision ou à mes objectifs principaux, ou est-elle seulement en support? Et donc, si votre réponse est non, elle ne participe pas directement ni à ma vision, ni à ma mission, ni à mes objectifs principaux, ni à mes projets, eh bien, c'est aussi une tâche que vous pouvez envisager à déléguer. Le troisième élément de cette mini-méthode, c'est votre zone de génie. Nous avons tous, à un certain moment, une zone dans laquelle, quand nous faisons ces activités, réellement, nous excellons. Et en plus, elles nous passionnent. Eh bien, ça, ce sont des tâches que l'on aime garder, mais aussi qu'il faut garder, parce que c'est réellement là où nous sommes le meilleur. Et parce que nous sommes le meilleur, nous allons être beaucoup plus efficaces et surtout efficients. C'est-à-dire utiliser le moins de temps possible pour pouvoir faire cette tâche-là. Et donc, les tâches qui sont en dehors de cette fameuse zone de génie, eh bien, elles sont potentiellement délégables. Dans cette troisième partie de votre épisode sur l'art de la délégation, eh bien, nous allons voir maintenant comment trouver les bonnes personnes à qui déléguer cette tâche. Nous allons juste de voir comment trouver cette tâche, maintenant nous allons parler de comment trouver les bonnes personnes pour déléguer cette tâche. Alors, en fait, la clé ou une des clés du succès réside dans, en fait, la capacité à identifier, après recruter ou engager, et fidéliser surtout ces fameux talents qui, outre les compétences que vous avez besoin et les compétences qui sont nécessaires à votre évolution, ils les ont, mais qu'ils partagent également les mêmes valeurs que votre entreprise et que vous-même. Alors la toute première étape, c'est réellement de définir les besoins précis. C'est réellement de voir pour quelle tâche vous avez besoin de cette personne ou d'une personne. Et avant de chercher à déléguer, c'est pratiquement essentiel de définir clairement de quoi avez-vous besoin, de qui avez-vous besoin. Donc de quoi, c'est quelles sont les compétences spécifiques qui sont requises, quels sont les objectifs que cette personne va vous aider à atteindre, mais également, quand je parle de qui, c'est quelles sont ses valeurs et est-ce que au niveau culture d'entreprise, cette personne va pouvoir s'adapter à votre propre culture. Alors, il y a différentes méthodes pour pouvoir trouver la personne qui va vous aider, qui répond à vos besoins. Je vais vous en soumettre trois. Et la première est celle qui, souvent, a le plus de succès. C'est d'utiliser votre réseau. Votre réseau personnel, voire professionnel, c'est une ressource inestimable. Pourquoi ? Parce que vous connaissez déjà les personnes, vous avez déjà un contact avec ces personnes, qui elles-mêmes peuvent éventuellement connaître un collègue ou une autre qui serait intéressée et qui pourrait coller à la description que vous leur avez faite. C'est souvent les meilleures recommandations, ce sont celles qui viennent de votre cercle direct. Bien. Parfois, ce n'est pas toujours possible. Et donc, la deuxième possibilité, c'est vous avez des plateformes, notamment si vous avez besoin de quelqu'un très temporairement et que vous préférez utiliser ce qu'on appelle un freelance, hein, quelqu'un qui va venir travailler pour vous, mais qui ne sera pas sur votre payroll, pour des tâches, par exemple, très spécifiques. Eh bien, il existe plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez aller, je dirais presque picorer, si je peux me permettre le terme, de voir quelles sont les personnes qui proposent leurs services et qui pourraient répondre à vos besoins. Alors, il y en a plusieurs, vous avez Fiverr, Freelancer, Upwork, 5euros.com. Il y a toute une série de plateformes en fonction de réellement ce que vous désirez comme compétences. Une possibilité qui n'est pas très souvent retenue, et pourtant, ce sont les stages et des programmes de mentorat, par exemple. J'ai eu l'occasion d'engager un certain moment un stagiaire dans le cadre de ses études et finalement il est venu 2 années de suite dans la société et ça s'est terminé finalement avec une proposition d'engagement. Forcément, je connaissais déjà cette personne. Elle avait déjà travaillé avec moi et elle est restée très longtemps dans mon équipe et puis a évolué en dehors de mon équipe et dans la société. Et aujourd'hui, elle dirige sa propre boîte et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que c'est un peu comme Branson disait, c'est pas simplement de donner une tâche à une personne, mais également la possibilité de pouvoir se développer. Comme je vous l'ai annoncé, avant de conclure, nous allons parler dans la partie 4 de cet épisode des clés d'une délégation efficace. On a vu les plateformes ou comment vous pouviez trouver la bonne personne. Parfois, vous avez déjà une équipe et vous pouvez effectivement déléguer des activités à des personnes qui sont déjà en train de travailler avec vous. Alors, si c'est le cas et que vous avez déjà une équipe, il est intéressant de considérer les compétences de la personne à qui vous allez déléguer et également de son intérêt. C'est-à-dire que lorsque vous cherchez à déléguer une activité particulière à un de vos collaborateurs, considérez non pas seulement ses compétences actuelles, mais aussi quels sont ses intérêts, voire ses aspirations. Parce qu'à ce moment-là, vous allez voir comment la tâche que vous lui déléguez va lui permettre effectivement d'accroître sa connaissance ou son développement personnel. Et bien entendu, lorsqu'il y a développement et épanouissement de la personne au sein de ses activités, vous créez un effet qui est l'augmentation, un, de son engagement, mais également, très probablement, de sa loyauté, c'est-à-dire de rester plus longtemps chez vous avant de regarder à l'extérieur. Dans ma carrière, j'ai également, à un certain moment, donné à une personne un projet, alors que je savais très bien qu'elle n'était pas chef de projet, mais elle avait suivi une formation et je lui ai proposé qu'elle prenne ce projet avec un risque limité où elle allait pouvoir absolument mettre en pratique tout ce qu'elle avait appris, mais également je lui ai proposé de l'accompagner, c'est-à-dire d'être en quelque sorte son mentor, voire son coach, et s'il y avait un problème quel qu'il soit, qu'elle ait une personne à qui elle peut se référer et que nous pouvons voir ensemble comment solutionner ce point. C'est quelque chose de très intéressant. Ça demande bien entendu un investissement en temps, mais vous avez, bon, ça a été mon cas, à la fin de cet accompagnement, j'avais un nouveau chef de projet. C'est pas bien ça ? Un point également, avant de déléguer, c'est d'évaluer la charge de travail. Alors, il y a deux composantes dans l'évaluation de la charge de travail. Il y a quelle est la charge de travail que la tâche qui est déléguée va demander à la personne qui va la recevoir, mais également de savoir si cette personne a bien du temps disponible pour pouvoir prendre quelque chose en plus. Le but de la délégation n'est pas de stresser notre collaborateur. Dans un atelier sur la délégation, je donne toute une série de conseils sur comment faire pour que la délégation soit réussie. Je vais vous en communiquer ici 3, vu le temps, nous n'aurons pas l'occasion d'aller à travers toutes. Mais premièrement, c'est d'établir des attentes de votre part très claires. Et la communication est un élément clé. Lorsque vous déléguez, soyez très clair sur les résultats que vous attendez. Les échéances, par exemple, ou les critères qui vont mesurer le succès. Une communication claire dès le départ évite les malentendus et peut prévenir que beaucoup de confusion et d'erreurs ne se produisent. Le deuxième point qui est important de retenir, c'est que vous mettez un système de suivi en place. Mais je vous recommande de le faire dès le début. Ce que j'ai vu très souvent, c'est que des personnes qui avaient délégué une activité se rendent compte que ça n'avance pas exactement comme ils le veulent et après, par exemple, un mois, appellent une réunion pour réellement savoir ce qui se passe. À partir de ce moment-là, vous imaginez déjà que, un, la personne qui a délégué est un petit peu énervée parce que les choses n'avancent pas, et la personne qui vient au rapport, si je peux dire, est un peu stressée. Alors moi, ce que j'ai mis, c'est que toutes les semaines, il y avait à heure fixe, à jour fixé, une réunion de suivi. À partir de ce moment-là, si j'avais vu, entendu quelque chose qui n'était pas en ligne avec ce que j'attendais, je savais que j'avais un moment dédié pour en parler. Sauf, bien entendu, si le bateau brûlait, j'allais pas attendre la prochaine réunion. Mais la plupart du temps, ça peut attendre la prochaine réunion. Ce qui veut dire que la personne qui va venir à cette réunion, est déjà préparée. Elle sait que l'on va parler de l'état du projet ou de la délégation et où on en est. Et à ce moment-là, ça réduit quand même très fortement le stress et ça permet à la personne d'être préparée. Le dernier point, et souvent quand on a sa propre équipe, c'est un peu ce qu'on oublie, c'est simplement des encouragements. Ce n'est pas parce que la personne est dans votre équipe, sur votre payroll et est payée, qu'elle n'a pas besoin également d'avoir des encouragements. Et aussi, ce que j'appelle un feedback constructif. Vous pouvez reconnaître les contributions qui ont été faites, les réussites qui ont été atteintes, et ça renforce en fait la personne dans sa propre confiance et dans sa confiance dans le processus et de ce qu'elle est capable de faire. Et finalement, vous introduisez ainsi une culture d'amélioration continue parce que la personne va voir que ses efforts ont été récompensés et pas seulement le résultat. Souvent, on a tendance à se focaliser uniquement sur le résultat sans tenir compte de l'effort que la personne a dû fournir pour obtenir ce résultat. Or, les efforts d'une personne à une autre varient énormément pour un même résultat. Et donc, si on se focalise uniquement sur le résultat, on va peut-être démotiver une autre personne d'avoir fait autant d'efforts pour atteindre le but atteint. Avant de prendre congé, si je puis dire, je voulais vous raconter cette histoire d'une personne avec qui j'ai travaillé. On va l'appeler Maya. Et j'ai intitulé un peu son expérience de l'accablement à la liberté. En fait, Maya travaillait non pas pour moi, mais dans un département du marketing. Et vous savez que j'ai travaillé très longtemps dans l'informatique. Et donc, on avait eu pas mal de contacts, surtout pour développer du marketing digital et voir comment, à l'époque, on pouvait donner un avantage concurrentiel à la société par cette manière de faire. Pour différentes raisons, elle a perdu un peu, je ne vais pas dire patience, mais elle avait envie de créer, en fait, sa propre société parce qu'elle avait vraiment une passion et une ambition pour cela. Et donc, je me souviens très bien du jour où elle a fait le grand pas, elle a quitté la société dans laquelle on travaillait pour créer sa propre entreprise. Et je lui ai dit, écoute, ce serait bien, si tu le désires, que nous restions en contact, si je peux voir comment ça fonctionne. Et c'est effectivement l'accord que nous avions eu. Quelques mois après, dans une des conversations que nous avions une conversation assez régulière, tous les mois on avait un petit contact, il me fait part de la chose suivante. Je commence à avoir de plus en plus de clients, et notamment très récemment, une société quand même d'une taille assez importante qui a besoin de mes services. Mais elle me dit aussi, tu sais, je me sens complètement et constamment débordé. Je mets de longues heures dans mes activités et en fait, je commence à avoir quelques petits soucis, notamment avec ma famille, parce qu'ils ne me voient pratiquement plus. Et mes enfants, ainsi que mon mari, s'en plaignent. Et en fait, dès le début de sa société, elle avait fait tout elle-même, depuis la stratégie client, la création des contenus, les outils, elle avait tout fait elle-même et elle continuait à tout faire elle-même. Et donc, quand elle me dit effectivement que sa famille commence à être... Je dis, bon, ils peuvent comprendre, elle dit oui, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai raté un événement familial, c'est-à-dire que les parents avaient organisé une petite fête pour les enfants et Maya n'a pas pu y assister. Et là, c'est un peu le choc pour elle. Et je lui dis, tu sais, je pense qu'il est temps maintenant de reconsidérer ton approche sur ta manière de gérer ton entreprise. Je sais que c'est ton bébé, je sais que c'est à toi, je sais que tu as beaucoup de passion, mais si tu continues comme ça, je pense que dans un premier temps, tu ne vas plus pouvoir évoluer parce que tu vas toi-même te coincer, tu ne sauras pas à un certain moment accepter d'autres clients. Et il y a une solution à ça. Je me dis, ah bon, il y a une solution, et c'est quoi ? Ben, c'est de commencer à déléguer, c'est-à-dire une partie de tes activités, c'est de les passer à quelqu'un d'autre. Je me dis, enfin, bon, c'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué, mais ce n'est pas la délégation qui est compliquée. C'est simplement que tu te fasses à l'idée qu'une partie des activités que toi, tu fais dans ton entreprise, quelqu'un d'autre peut le faire aussi. Et ça, c'est la partie la plus compliquée. À l'époque, j'étais encore manager, je n'avais pas mes activités actuelles. Et donc, je lui propose, je dis, écoute, voilà, si tu veux, on peut se voir plus régulièrement et je vais t'expliquer comment moi, je délègue mes activités au sein de mes différentes équipes et aussi différents niveaux, puisque je gérais à la fois des business analysts, mais j'avais des managers et même des directeurs dans mon équipe à un certain moment. Et donc, je lui demande, avant que l'on se retrouve dans une semaine, peux-tu faire l'inventaire de toutes les tâches que tu fais ? Je vous expliquais cela. Et donc, elle fait un champ d'audit, une liste de toutes ses activités. Et lors de notre entretien, elle s'est rendue compte qu'il y avait deux grands pôles d'activité qui lui prenaient énormément de temps, mais qui n'étaient pas réellement son core business. Et c'était ces deux-ci. C'était tout le suivi client, s'assurer qu'ils ont la bonne documentation, les bons accès, la bonne information pour pouvoir utiliser l'outil. Et la deuxième, qui était toute la gestion, je vais dire, du projet, depuis le fait qu'à un certain moment, le contrat a été signé, jusqu'au moment où l'outil était bien installé, bien compris par le client. Et à la fin de cette conversation, qui, je me souviens, n'a pas été très facile à accepter de sa part, mais c'est de dire, ça, ce sont deux éléments que tu pourrais déléguer, le suivi, je dirais, de clientèle, plus la gestion de projet, de telle sorte que ce temps récupéré, toi, tu puisses le passer à, un, faire évoluer ton produit, mais également faire évoluer ta base client, trouver d'autres clients et les convertir. Donc, trouver des prospects d'abord et puis les convertir en clients. Alors, je vous laisse imaginer ce que c'est. Bon, là, le suivi client va encore, mais le projet, c'est-à-dire que c'est elle qui, auparavant, implémentait le tout de A à Z. Et ici, elle allait donner cela à une autre personne. Donc, il y a eu d'abord toute la formation, le suivi. Les premiers projets, je lui ai dit, écoute, tu le fais avec lui et tu vois comment, c'était un homme, hein, tu le vois comment cette personne va réellement travailler. Et si tu en es contente, bien, tu peux petit à petit être moins présente et lui laisser plus de liberté, plus de responsabilité. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, au troisième projet, cette personne était complètement indépendante. Elle pouvait traiter le projet de A à Z une fois que Maya avait conclu le contrat avec la société. Il prenait le relais et il implémentait l'ensemble. 3 mois après cette partie-là, il y a une transformation, mais alors là, très remarquable dans son entreprise. D'abord, elle a commencé à avoir beaucoup plus de clients parce qu'une grande partie de son temps qui était récupéré à la fois pour le suivi et pour les projets, elle l'avait remis dans la recherche de nouvelles clientèles. Et elle a, à un certain moment, engagé le chef de projet qui était freelance et qui a bien voulu rejoindre la société. Et ce chef de projet est devenu ce qu'on appelle dans notre business un programme manager. C'est-à-dire que lui-même gérait maintenant, écoutez-moi bien, 3 autres chefs de projet pour pouvoir réaliser tous les travaux qui étaient demandés par les clients. Ce qui veut dire que pratiquement une année après, elle avait quadruplé son équipe, et je ne vous parle même pas de son chiffre d'affaires et du nombre de clients qui, vous l'avez deviné, a été exactement dans la même direction. Mais ce n'est pas tout. Comme elle n'était plus impliquée directement dans l'opérationnel, elle a pu dégager du temps, puisque s'il y avait un service à rendre aux clients ou bien une activité liée à l'implémentation, elle avait son équipe qui le faisait, et donc elle a pu retrouver du temps qu'elle a investi, elle, en partie dans la recherche de nouveaux clients, mais surtout réallouer du temps à sa famille et sauver comme cela son mariage. Voilà, il est temps de conclure, d'arriver tout doucement à la conclusion. Eh bien, je pense que vous l'avez déjà compris, la délégation, ce n'est pas simplement une stratégie de gestion unique d'activité, c'est pratiquement une philosophie de vie. Ouais, j'aime bien le terme philosophie, et si vous allez sur le blog, je vous ai mis un lien sur une vidéo de Branson, et vous verrez que pour lui, la délégation, c'est réellement quelque chose de très important. Voilà, la délégation, vous l'avez compris aussi, c'est un retour à l'équilibre pour les personnes qui sont super passionnées et ne comptent plus leurs heures dans leurs travaux. C'est également une possibilité énorme de créer de la confiance entre vous et les membres de votre équipe si vous en avez, et surtout de créer une croissance mutuelle. Vous allez apprendre de nouvelles choses grâce au temps retrouvé, mais les personnes de votre équipe vont également connaître une croissance. Voilà, inspirez-vous de l'histoire de Maya. Vous voyez que son équipe et elle-même, ainsi que son entreprise et sa famille, n'ont trouvé que des points positifs dans la délégation. Alors et vous, par quel côté allez-vous commencer à déléguer? Et sachez que parfois, certaines petites activités, comme par exemple modifier une page d'un site internet, vous avez toute une série de freelance qui sont prêts à vous faire ça pour quelques euros. Je n'exagère pas, c'est notamment sur le site 5euros.com, vous pouvez trouver des personnes très qualifiées qui vont vous faire pour quelques euros le travail qui, à vous, pourrait vous demander énormément de temps. Une autre piste, et puis après je vous laisse, c'est aussi les assistantes virtuelles, ces personnes qui peuvent prendre en charge toute une série d'activités pour quelques euros par semaine ou par mois ou parfois à la tâche, c'est aussi une piste. Donc, qu'allez-vous commencer à déléguer dès maintenant ? Très intéressé de le savoir, n'hésitez pas à le communiquer de la meilleure façon que vous trouverez. À très bientôt. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante j'aime@oruposa.com. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com. À très bientôt. Au revoir.